c'est que je reviens, j'ai un métier extraordinaire. Mon métier, c'est d'être chercheur, étudier les pays étrangers, en l'occurrence les pays d'Asie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voyage sans arrêt. Alors je voyage dans les livres, beaucoup, beaucoup, j'en ai écrit aussi, et c'est très important, hein. Mais l'étude, vous le savez, vous êtes payé pour le savoir, l'étude c'est très important, mais pour moi aussi c'est des voyages. J'ai été dans plus de 70 pays et j'ai fait des séjours approfondis au Japon, 2 ans, je parle encore le japonais, en Chine, j'ai été vécu à Hong Kong 2 ans et à Pékin, je reviens d'un séjour à Pékin de 5 ans, hein, et... je reviens d'Inde, où j'ai passé 15 jours récemment. Enfin, ça a été un séjour merveilleux. Et pourquoi je vous parle des voyages? D'abord parce que je vous souhaite de profiter du monde que vous trouverez quand vous aurez 20 ans, 25 ans, et qui est un monde beaucoup plus globalisé, beaucoup plus ouvert au voyage. Et donc, vous aurez beaucoup plus de chances. De mon temps, on prenait des risques. Je suis allé en autostop en Inde quand j'avais 20 ans. Mais enfin, je me suis fait arrêter par des brigands afghans. Enfin, ça n'avait pas été facile, quoi. On va dire que maintenant, le monde est quand même plus à votre portée. Et deuxièmement, ce que je souhaite, c'est que, quel que soit le métier que vous choisissiez, vous puissiez intégrer les connaissances internationales, intégrer l'analyse que vous faites de tel ou tel pays. Il y a parmi vous beaucoup de jeunes, je crois une 50aine de jeunes qui font du chinois, hein, on ira, hein, je leur dis bonjour. Et eh bien, ce qui est formidable, ce serait que, quel que soit votre métier plus tard, vous puissiez combiner vos connaissances sur l'international avec les connaissances nécessaires à votre métier. Et alors, je voudrais vous expliquer comment on peut comprendre l'économie de la Chine en insistant sur les points vraiment de méthode essentiels, points de méthode intellectuelle, mais points de méthode aussi de voyage. Parce que je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé à Pékin, c'est que j'ai compris, en roulant en quelque sorte dans les ruelles de Pékin, en discutant avec les gens, j'ai compris que, inéluctablement, l'économie chinoise allait connaître ce qu'elle connaît maintenant, et qui est une diminution très drastique de son taux de croissance. Je vais vous expliquer comment, en voyageant, on peut arriver, par un raisonnement très simple, à comprendre ce qui va se passer. Hein? Alors d'abord quand même, je vous dis les 4 points que je vais suivre. Hein? On dit souvent qu'il faut faire des plans en 3 parties, hein? Ou bien des plans en 2 parties. En fait, à Sciences Po, quand j'étais directeur scientifique, moi j'ai insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. Mais peu importe les parties, vous pouvez en faire 6, 7, 8, hein, à Sciences Po de Paris, on ne vous en voudra pas. Alors, mon premier point, ça va être quand même dire des choses fondamentales sur la terre et les hommes, l'espace et la population chinoise. Parce qu'il n'y a pas d'économie qui ne soit pas basée sur un espace et qui ne soit pas actée par une population. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi la Chine s'est développée si vite ces derniers temps. Et deuxième point. Ensuite, je vais vous montrer les limites de ce développement, qu'il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur, bien au contraire. Et enfin, je vous expliquerai pourquoi la Chine rencontre actuellement un incident extrêmement grave qui est pour elle l'occasion d'un moment de vérité. On va voir s'ils sont si bons que ça. Ils ont leur chance, mais ce n'est pas sûr. Et il ne faut pas s'affoler. Donc voilà mes 4 points. La terre et les hommes. Pourquoi le développement économique chinois? Quelles limites? Et pourquoi la crise d'aujourd'hui? Et comment concrètement je l'ai vu venir en discutant avec les gens? Et comme quoi on peut exercer, chacun comme citoyen, comme intelligence, peut exercer son jugement sur la réalité qui l'environne. Il n'y a pas besoin de faire appel à des grands spécialistes qui, en général, me disait un économiste récemment, l'économie, ça sert à prévoir le passé. Hein? Alors essayez-vous d'apprendre personnellement à prévoir l'avenir, chacun à votre façon. Alors la Terre et les hommes. La Terre. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que la Chine est, en un sens, c'est mon premier point, une absurdité. La Chine est grande comme un continent et pas comme un pays. Aujourd'hui, il y a 30aine de provinces en Chine et chacune de ces provinces pourrait faire un vrai pays. Est-ce qu'on peut me remettre la carte? Ça serait gentil. Sinon, c'est pas grave. Hein? Merci, madame. Ça reviendra, c'est pas grave. Chacune des provinces chinoises peut faire un pays. Les provinces ont leur dialecte, les provinces ont leur culture, les provinces ont leurs identités, elles ont aussi leurs intérêts économiques. Si bien que quand je me baladais en Chine avec ma voiture, bien souvent, on me crevait les pneus parce que j'étais immatriculé à Pékin. Vous voyez, c'est bien pire qu'en France quand vous baladez en Provence, que vous avez 75, ou etc. Et bien souvent, carrément, quand un garagiste voyait que j'arrivais à l'hôtel, il me disait, écoutez, hein, c'est d'accord, je surveille votre voiture, et si je vois à 5 heures du matin demain qu'elle a les pneus crevés, je vous le fais la réparation. Et une fois sur deux, on me faisait la réparation parce que quelqu'un m'avait crevé les pneus, j'étais immatriculé Pékin. Vous voyez. Donc, la première absurdité, la première chose, c'est l'absurdité de cet espace. C'est un espace qui va, en gros, entre Leningrad et Dakar. Vous voyez, c'est l'équivalent, un petit peu. C'est immense. Et en plus, c'est un espace qui combine une immensité de déserts et de montagnes. Le Tibet, par exemple, c'est quelque chose d'effroyable. C'est à plus de 4000 mètres d'altitude pour la plupart du temps, et vous savez, ça vous tape le crâne, hein, véritablement. Il m'est arrivé, je ne sais pas si le fil va me suivre, il m'est arrivé de faire un voyage que je vous souhaite à tous de faire une fois, qui est d'aller du Pakistan en Chine par cette espèce de langue, non, là, voilà, c'est là, par le Pakistan, vous voyez, on monte à 5000 mètres d'altitude, il y a un col, et on est dans des vallées entre des montagnes de 8000 mètres. Et on voit d'ailleurs des tigres des neiges, tout blancs. J'avais jamais vu de tigre tout blanc. Il y a des montagnes en, qu'est-ce que c'est que vous savez, ce diamant tout rouge, là. Enfin, ma femme était quand même dans un état pas possible parce que, voilà, il y avait des diamants qui dégringolaient de tous les côtés, si vous voulez, vous voyez. Donc, c'est un continent absolument incroyable, dont la moitié de l'espace consiste en désert. Et alors, on dit de loin comme ça, la Chine est riche, un territoire riche, etc. En fait, 50% de désert et de montagne, et 50% seulement de terre utilisable. Or, comme la Chine est un très vieux pays, la terre a été déjà très usée, elle est très érodée. Les Chinois sont pas plus malins que les autres, pas moins malins non plus, mais très souvent, ils ont fait des erreurs, ils ont trop irrigué. Donc, quand on irrigue trop, ça fait monter le sel, vos professeurs le savent. Hein. Bien d'autres fois, comme les Chinois construisent en bois, eux, c'est ça, leur passion, la pierre, ils aiment pas trop, donc ils construisent en bois. Et le résultat de cette... ça vous gêne quand je bouge, monsieur? Ça va? Et donc, le résultat, si vous voulez, c'est qu'il faut déforester pour ça. Plus de forêt, donc le manteau de la terre, en quelque sorte, la terre risque beaucoup quand il y a des inondations ou des sécheresses. Donc le sol est extraordinairement fragile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agriculture chinoise dépend immensément du travail des hommes, d'un travail qui doit être extraordinairement massif, il y a de très très nombreuses heures, et qui appelle de la part de la population beaucoup de conditions psychologiques, sociales, etc. Les gens ne travaillent que quand ils sont pas trop malheureux, si je puis dire. Hein. Et avec le communisme, ça s'est passé comme ci, comme ça. Hein. Donc la première chose pour l'espace, un espace immense, beaucoup trop gros, il aurait été bien plus raisonnable qu'il y ait une vingtaine d'États, bien plus raisonnable. Mais alors, comme c'est un espace qui est immense et fragmenté, ils compensent cela, les Chinois, par une identité culturelle très affirmée. Et alors, leur identité culturelle, elle est, on va dire, fonction de leur langue, qui est une langue d'une complication effroyable pour nous, mais même pour eux. Hein. Ils perdent un temps fou, vous savez, ils sont pas plus malins que nous. Il y a le même nombre chez eux de gens qui regardent mal et qui entendent mal hein, que chez nous. Or, ils ont une langue, c'est des caractères. Il y a au total 12 000 caractères. Avec 5 000, vous pouvez lire en gros le journal. Moi, je dois en avoir 6 000, quelque chose comme ça. Madame, votre prof, en a certainement beaucoup plus parce qu'elle a passé les meilleurs examens. Mais ça reste épouvantable, quoi. Ils sont pas plus intelligents que nous, c'est dur. Et à l'école, ils passent un temps fou à apprendre leur propre langue, un temps qu'ils pourraient tout aussi bien passer à faire des sciences, à apprendre des langues étrangères. Alors justement, le problème de l'enseignement en Chine, c'est qu'il est très peu internationalisé, etc., etc. Donc vous voyez, chaque chose a son inconvénient. Et le deuxième élément de leur identité, c'est la morale. Mais alors, il faut bien se méfier. Tout le monde a entendu parler de Confucius. Bon, Confucius, c'est un truc qui est très marrant. Vous pouvez acheter en livre de poche Confucius, C-O-N-F-U-C-I-U-S. Alors Confucius, c'est un type qui était une sorte de dandy, hein, quelques siècles avant Jésus-Christ, et à qui son patron a dit, écoute, vous êtes... j'en ai marre des Chinois, ils n'arrêtent pas de se disputer, de se bagarrer, etc. Trouve-moi quelque chose pour les faire tenir tranquilles, quoi. C'est un peu comme si un proviseur cherche un truc, quoi, pour les faire tenir tranquilles. Et alors Confucius, il a inventé un truc. Il a inventé de construire la société sur le modèle de la seule cellule sociale qui marche bien souvent, c'est la famille, voyez. Et donc c'est une organisation de la vie en société sur le modèle familial, c'est-à-dire sur le modèle de l'autorité des parents, de l'autorité des frères aînés, et, mesdemoiselles, désolé, de l'autorité des messieurs sur les dames. Hein. Donc voilà, c'est ça le confucianisme. Mais est-ce que ça veut dire que tous les Chinois soient confucéens, que tous les Chinois soient très moraux? Ils sont comme nous, il y a de tout. Mais le confucianisme joue beaucoup pour l'identité de la Chine. Donc voilà mon premier point sur, à propos des hommes, une très grande diversité, mais aussi un très grand centrage culturel. Alors c'est ce qui fait que toute l'histoire de la Chine, et ça va être mon dernier point dans cette première partie, toute l'histoire de la Chine est marquée par cette difficulté de l'unité, mais par ce goût de l'unité. Elle est tellement difficile qu'ils en rêvent, qu'ils font tout pour y parvenir, mais elle n'est jamais complètement acquise. Le résultat de cette difficulté linguistique et de l'existence de ces dialectes, c'est que le ministre de l'Éducation nationale chinois reconnaissait récemment que seulement la moitié des Chinois sont capables de parler le chinois. Vous voyez ? Évidemment, ils ont des dialectes qui sont aussi différents les uns et les, que des autres que l'espagnol du néerlandais. Vous voyez, c'est invraisemblable. Bien souvent, en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est la langue écrite. Alors, votre professeur vous a certainement dit que bien souvent, ils se font des petits dessins, hein, parce qu'ils ne se comprennent pas quoi. Et alors, c'est une langue, d'ailleurs, où il y a ce problème, ce qui est dramatique, c'est le problème des tons, vous voyez. Il y a quatre tons, un. Ben, il y a autant chez eux de sourdingues que chez nous, il y a autant de types un peu endormis, et puis les dialectes modifient beaucoup la prononciation. Et donc, la Chine, c'est le pays, la capitale au monde de, j'espère que vous comprendrez mon mot, la contrepétrie. Vous savez ce que c'est la contrepétrie? C'est quand vous dites quelque chose, vous modifiez légèrement des sons et vous racontez une grande cochonnerie, quoi. Et il m'est arrivé comme ça d'être invité chez des gens. Je voulais dire remercier l'hôtesse et puis je la vois tout d'un coup qui se met à rougir, blanchir. J'avais dit une bêtise, quoi. Vous voyez, je sais pas trop laquelle, j'ai pas trop demandé. Mais enfin, elle avait pas bien pigé. Vous voyez, c'était un peu comme ça. Donc, il y a la difficulté de l'unité, les difficultés de l'identité, mais ils y vont en permanence. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement nationalistes. C'est pour ça qu'ils sont tellement furax contre Sarkozy. Parce que ils ont besoin, par le Tibet, par d'autres points comme celui-là, de se rassurer sur leur propre pays, sur son unité, sur leur nation, sur leur patriotisme. Donc, voyez, la Chine, qu'on nous croyons de l'extérieur comme quelque chose qui va de soi, en fait, elle a jamais été de soi complètement. Son histoire est une histoire extraordinairement chaotique. Et justement, ça va être ma transition pour mon deuxième point. L'histoire chinoise a été glorieuse par moments et par d'autres moments épouvantablement catastrophique. Alors, la catastrophe la plus récente, mesdames et messieurs, nos parents, notre pays, en sont en partie responsables. J'espère que vos professeurs, j'en suis sûr, mais j'espère que vous vous souvenez de ce que vos professeurs vous ont dit sur les guerres de l'opium. 19e siècle, début donc du premier tiers du 19e siècle. La Chine à l'époque est un des pays les plus riches au monde, mais un peu en décadence. En gros, elle fait à peu près 20 à 30% du produit mondial. Hein. C'est quand même un pays très qui en a, j'allais dire, sous la semelle. Hein. C'est un pays qui a beaucoup de siècles de prospérité derrière, mais une dynastie qui baisse, qui décline, alors qu'en Occident, au contraire, la révolution industrielle produit de l'acier, améliorer la qualité de ses armements, et l'Occident est en train de commencer à conquérir le monde. Les vaisseaux des puissances occidentales alliées arrivent devant les ports chinois pour faire quoi ? Pour exiger que les Chinois achètent aux Occidentaux. Quoi ? De l'opium. Hein ? Alors il faut s'en souvenir, parce qu'on fait les malins, on fait les vertueux, en expliquant que aux Chinois, que les droits de l'homme, que la démocratie, etc. Mais les Chinois, eux, leur premier souvenir qu'ils ont de nous, c'est de gens qui ont voulu les forcer à acheter de l'opium. Et comme l'Empire chinois ne voulait pas, comme l'Empire chinois a déclaré la guerre, eh bien, nos armées les ont écrabouillées. Écrabouillées, ça a été ensuite un deuxième souvenir, c'était le souvenir de la défaite militaire, et ensuite les catastrophes se sont enchaînées. L'Occident s'est emparé de toutes les parties intéressantes de la Chine, et il s'est même emparé du contrôle d'une partie du pouvoir chinois. Figurez-vous qu'à la fin du XIXe siècle, le directeur des douanes chinoises était un Britannique. Faut le faire, hein, faut le faire. Hein, c'était comme ça. C'est-à-dire que les douanes, le contrôle commercial des frontières, qui est quand même quelque chose qui appartient à un pays, était délégué, disons, à un Britannique. Et puis c'est pas terminé. C'était l'époque où nos missionnaires voulaient évangéliser la Chine. Et le souvenir que les Chinois ont eu, c'est de gens qui se prétendaient détenteurs, les Occidentaux, de la religion révélée, de la meilleure religion, mais qui, dans les faits, voulaient l'imposer. Vous voyez ? Donc, on n'a pas laissé des souvenirs fantastiques, et on a d'autant moins laissé des souvenirs fantastiques qu'on a... Ah, c'est l'interclasse. On a d'autant moins laissé des souvenirs fantastiques que les Chinois ensuite se sont entre-déchirés. Comme souvent quand un pays est écrasé, ils se disputent. Eh bien, il y a eu des grandes émeutes dans les années 1850, dans les années 1870. Les Chinois se sont déchirés et finalement leur empire s'est cassé la figure en 1911, fin de l'empire chinois. Mais c'est pas terminé. La catastrophe chinoise continue ensuite. Ensuite arrive toute une série de seigneurs féodaux, etc. Et puis arrive une dictature nationaliste, mais qui en fait ne réussit pas. Qu'est-ce qui se passe dans les années 30 ? Le pouvoir chinois est incapable de fonder un État moderne et d'unifier la Chine, d'une part, et d'autre part, un événement fondamental se produit à partir de début des années 30, progressivement, le Japon va commencer à dévorer la Chine. Pourquoi je vous raconte ces choses-là qui sont pour vous un peu loin encore, hein ? Mais c'est quand même des choses très importantes. Pourquoi ? Parce que c'est justement parce que la Chine est tombée si bas qu'ensuite elle a remonté si vite et si fort. Il faut comprendre que cette remontée de l'économie chinoise dans les 30 dernières années, c'est un peu ce qui arrive à un plongeur qui est descendu au fond de l'eau et qui donne un grand coup de talon sur le sol de la mer et qui remonte très vite, voyez ? La première catastrophe, ça a été la catastrophe devant l'étranger occidental, devant l'étranger japonais, qui s'est conduit d'une façon absolument sanguinaire. Mais la dernière catastrophe, la pire des catastrophes, ça a été que le communisme qui s'est installé en 1949 en Chine était un régime horriblement violent et qui a littéralement désespéré les Chinois. Alors quand Mao Tse-tung, qui était le chef de ce régime communiste et qui était vraiment un empereur rouge, quand Mao Tse-tung est mort en 1976, la Chine était en bas. Moi, je me rappelle avoir vu dans les années 1974 mes premiers voyages en Chine, dans les années 1974-1975, des petites paysannes hâves et décharnées courir la campagne pour gratter, trouver ici des brindilles d'herbe, là quelques bouts de gueule, quelques grains de riz. Et je me rappelle une fois dans un hall d'hôtel, un homme qui me fonce dessus, qui arrive de l'extérieur et qui était tout barbouillé, tout bizarre, et qui me dit « j'arrive de camp de concentration, c'est terrible, il faut que ça se sache ». La Chine était au bord du désastre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur dont vous avez dû voir le portrait avant, monsieur Teng Xiaoping, Deng Xiaoping, qui a remonté la Chine. Et c'est très intéressant de regarder comment... vous savez, la politique, finalement, c'est assez simple. Et souvent, je pense avec nostalgie au fait que certains... Enfin, je sais bien que ce lieu est un peu neutre, et doit être neutre, Mais je trouve que certains hommes politiques occidentaux, dont certains très proches de nous, devraient un peu étudier ce qui marche ailleurs, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait, Deng Xiaoping? Deng Xiaoping, à l'origine, c'était un communiste, et il avait beaucoup aidé Mao Tse-tung. Mais il a reconnu officiellement, il a dit à tout le monde, « Je me suis trompé, on a fait des bêtises. » Et il a dit, il s'est adressé au pays, il a dit, « Écoutez, voilà, je vais travailler pour vous si vous travaillez pour moi. » Et il commence, Deng Xiaoping, et il commence par faire une augmentation générale des prix d'achat des produits agricoles. Et il augmente les salaires. Il fait sa part. Et la population, du coup, elle fait la sienne, elle se met au travail. Et il y a eu d'abord, si vous voulez, la confiance. Vous êtes en terminale, donc vous avez des thèmes de dissertation, et peut-être y a-t-il ici votre professeur de philosophie, etc. Il y a des... Non. Enfin, en tout cas, il y a des réflexions qu'on vous propose, et une de ces réflexions pourrait être une réflexion sur les conditions de la confiance. Comment se construit la confiance? Eh bien, ils y sont arrivés, voyez. Ils y sont arrivés. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que le monde d'aujourd'hui était un monde mondialisé. Qu'est-ce que ça veut dire mondialisé? Ça veut dire ouvert. Et que donc, il fallait profiter de cette ouverture, qu'on pouvait faire, pourquoi ne pas le dire comme c'est, un blé d'enfer, en vendant à l'Occident des produits qui seraient moins chers. Pourquoi? Parce que les salaires étaient plus faibles. Et la Chine a ainsi fondé sa croissance, d'abord sur la confiance intérieure, ensuite sur ses performances commerciales, et ces 30 années ont été 30 années où la Chine a gagné 10% par an en moyenne. Et pour moi, je voyais ça à chacun de mes voyages que ça changeait. Dans les années, à la fin des années 70, il n'y avait pas d'éclairage la nuit, les gens grelottaient chez eux. Début des années, au milieu des années 80, j'ai pu faire un tour en vélo en Chine. Donc je suis allé de Canton à Shanghai. Vous voyez, en bas, en gros, le long de la côte. Vous voyez? Et je racontais là à des amis que j'ai eu un épisode tout à fait... Vous savez, quand on voyage comme ça, on a des histoires incroyables, quoi. Et donc, j'étais mis en prison parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais dans un endroit où je n'avais pas le droit. Et au pied, j'avais, vous savez, comme la grosse boule de Monte Cristo, vous savez, avec une chaîne, vous voyez. Donc, je ne menais pas large. Là, je fais le malin parce que j'en suis sorti, hein. Mais je ne menais pas large. Et au petit matin, des grands coups de pied sont... j'entends taper contre la porte et c'est le directeur de la prison. Dit, je suis le directeur de la prison, j'ai réfléchi, je te libère, tu épouses ma fille et tu deviens mon représentant en Occident. Bon. Alors moi je me dis là, enfin j'étais encore relativement jeune marié, c'était pas vraiment le moment de changer, quoi. Mais en même temps, j'avais bien envie d'en sortir quand même, voyez. Bon. Alors on va le voir. Il n'y a pas à faire le malin parce que elle était vilaine comme un pou et elle avait les genoux qui s'entrechoquaient, hein. Donc il n'y avait pas place à l'hésitation, si je puis dire. Et là, on se met à discuter. Lui, et c'est quelque chose de très important. Il était, vous savez, le communisme chinois, c'est devenu un communisme un peu capitaliste, voyez. Et la plupart des fonctionnaires, ils ont leurs petites affaires. Donc il était à la fois patron de la police, et en même temps, il dirigeait une usine de confiture. Et il voulait exporter ses confitures en Occident. Pour lui, l'Occident, c'était un seul pays, quoi. Et donc, il voulait que je devienne son représentant commercial en Occident. Moi, je suis déjà pas capable de faire mes impôts tout seul. Je sais pas comment j'aurais... Bon. Alors, je fais semblant de dire oui, et puis on va bambocher. On a bambocher, on a boire des canons, disons, toute la journée. Et finalement, il a authentiquement roulé sous la table. Physiquement, je l'ai vu rouler sous la table. Alors là, j'ai fait ni une ni deux. Je suis sorti à toute allure. J'ai acheté à toute allure une bicyclette. J'ai roulé toute la nuit, en espérant de tout cœur pas me tromper, parce que j'avais pas de boussole, rien du tout. Et je suis arrivé dans les faubourgs d'une grande ville. Et là, j'étais tiré d'affaire. Mais déjà, à ce moment-là, on voyait, si vous voulez, qu'il y avait déjà du nouveau, que les entreprises naissaient, voyez. Et puis alors ensuite, il y a eu toutes les années 1990 où la Chine s'est mise de plus en plus à exporter dans le reste du monde. Et maintenant, la Chine n'est plus du tout la même. J'avais connu un Pékin qui était un Pékin de petites maisons basses, toutes fermées. Et maintenant, il y a des grandes tours. J'avais connu un Pékin où vous pouviez être envoyé en prison si vous montriez à une dame ou une dame montrait à un homme toute sa flamme. Disons, il était interdit de toute manifestation, disons, de cet ordre-là. Maintenant, il y a, disons, la situation n'est guère différente de ce qu'elle est en France, et je vous laisse la définir. Donc c'est d'une certaine liberté, on va dire. Hein. Et maintenant, la Chine a, on va dire, sur les 1,3 milliard de Chinois, il y a, en gros, 200 millions de gens qui gagnent leur vie comme chez nous, ou un petit peu moins bien, parce que c'est un pays très pauvre à l'origine. Il y en a encore, on va dire, 300 millions qui vivent de mieux en mieux, mais c'est encore difficile. Ensuite, on va dire 250-300 millions qui vivent tout juste, qui survivent. Hein, et honnêtement, les derniers 150 ou 200 millions qui vivent aux marges du pays. Je vais vous montrer les zones difficiles. Vous me suivez? Pardon. Je vous montrerai tout à l'heure. Pardonnez-moi, madame. Les 150 ou 200 millions qui restent, c'est des paysans qui sont à la limite de la survie alimentaire et bien souvent qui sont sans avenir, quoi. Voilà. Alors, voilà les zones. Ah. Je vais vous montrer les zones, les différentes zones. Qu'est-ce qui marche bien, voire très bien? Toutes les côtes et Shanghai. Shanghai, ses tours, Shanghai et les Shanghaïennes, qui sont des femmes parmi les plus intelligentes et les plus douées au monde pour le commerce. Canton aussi. Hein. Ensuite, les zones où ça marche mieux, c'est là. Ensuite, ça marche de moins en moins bien vers l'est, voyez, hein, vers l'ouest, pardon. Ça marche de moins en moins bien dans les déserts, etc. En gros, c'est ça. Hein. Et le Tibet est pas seulement différent, il est effroyablement pauvre. Alors, mais il y a quand même du progrès, vous le comprenez bien. Il y a du progrès, et je trouve que la Chine est un exemple d'un pays qui a vraiment, depuis 30 ans, connu une ascension tout à fait remarquable. Et cela donne lieu à, cela peut permettre beaucoup de réflexions sur les conditions du progrès, les conditions du développement. Ma conclusion à moi, que je livre à votre réflexion, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être polytechnicien. Enfin, c'est très bien de faire des belles études et d'avoir le bac avec une belle mention, etc., etc. Hein, c'est très bien. C'est mieux que le contraire. Mais il n'y a pas besoin de multiples années d'études pour réussir dans la politique et dans l'économie, parce que les règles fondamentales de la politique et de l'économie sont des règles d'une simplicité finalement biblique. Savoir construire la confiance, savoir repérer les moyens du développement. Qu'est-ce que a fait Deng Xiaoping? Il a donné l'exemple de la confiance, il a augmenté les prix, il a dit si vous montez de votre côté, si vous travaillez mieux, je continuerai à augmenter les salaires. Et il y a eu des augmentations de salaire en moyenne de 10% par an, à peu près équivalente à la production de l'augmentation de la production pendant 30 ans. Alors il partait de très bas, hein, on va y revenir dans un instant, il partait de très 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 bas, mais ils sont parvenus à une augmentation qui est quand même considérable, même si, j'ai pas trop le temps d'en parler, elle est très inégale sur le plan social. Mais dans l'ensemble, il n'y a que ceux de l'Ouest qui sont à l'écart du progrès. Ce qui est aussi très intéressant, c'est comme les Chinois ont réussi à trouver les moyens de faire de l'argent à l'international. Ils ont regardé ce que faisaient les autres, ils ont regardé ce que faisaient les Japonais. Et qu'est-ce que faisaient les Japonais? Bah, c'est très simple, c'est eux qui ont inventé la combine, qu'ensuite les autres pays d'Asie ont utilisé. Il ne sert à rien de lutter militairement contre l'Occident, il faut limiter économiquement et ensuite remonter progressivement le peloton. On imite l'économie occidentale comment? En étudiant, en allant voir, en allant sur le web éventuellement, en envoyant des espions si nécessaire, en achetant, si on le peut, les processus de fabrication. On peut même éventuellement acheter des experts qui viennent. Moi, j'ai eu un arrière-grand-père qui a été acheté par les Japonais pour faire le chef de gare. Les Japonais voulaient savoir comment on fait une gare. Et lui, il était chef de gare dans l'Ain, et il est allé faire le chef de gare au Japon. Et voilà. Et ensuite, les Japonais ont fait des beaux chefs de gare, avec des beaux képis, etc., des belles gares, etc. C'est mon arrière-grand-père qui leur a expliqué. Vous voyez ? Eh bien, les Chinois, les Japonais l'ont fait, ça. Les Chinois l'ont fait. Et ensuite, ce qu'ils ont produit à l'imitation de l'Occident, ils le vendent à l'Occident, mais à des prix qui, évidemment, sont infiniment moins élevés. Et c'est ainsi qu'ils captent tous les marchés et qu'ensuite, avec l'argent accumulé, ils achètent des machines et ils montent le niveau technologique des productions. Et c'est ce que la Chine a fait après le Japon. La Chine a commencé à produire et exporter des chaussettes, des balles de ping-pong et des pantoufles. Et maintenant, elle produit et elle exporte des ordinateurs à partir de composantes qui viennent de l'extérieur. Elle prépare une invasion du marché de l'automobile. Et quant aux Airbus que nous leur avons vendus aux Chinois, il y en a un qui n'était jamais réapparu, mais moi je l'ai localisé, je l'ai vu. Et il est sur un tout petit aéroport de campagne où il ressemble à un poisson, vous savez, comme ça, avec les arêtes seulement visibles. Ils sont en train de travailler dessus. Ils imitent, ils vont faire pareil et ils vont le vendre de vraiment cher. Ou c'est ce qu'ils veulent. Alors, vous voyez, tout ça, c'est du très beau raisonnement, c'est du très beau résultat. Mais, et c'est mon point 3, ce résultat subit des limites. Et ça, à partir de maintenant, je vais vous montrer comment, en voyageant, en ouvrant les yeux, en raisonnant, en pensant au cours d'économie ou d'histoire qu'on a eu, hein, en utilisant les choses bien simples, eh bien, on arrive à des résultats, même si on n'est pas un expert des Nations Unies en matière économique. Simplement en faisant fonctionner son cerveau. Je ne vous cache pas que je ne suis nullement un économiste. Moi, j'étais très bon en histoire, en économie pas très bon, et j'ose à peine dire que j'ai passé mes deux bacs avec 0,5 en maths. Hein. Voilà. Et bon, mais c'était quand même les sections les plus littéraires. Et j'avais des très très bonnes notes ailleurs, hein. Oui, attention, hein. Attention, hein. Bon. Attention. Oui. C'est pas recommandé, ne suivez pas mon exemple. C'est pas recommandé, hein. Voilà. Bon, mais en tout cas, j'étais pas très bon. J'étais pas très bon en économie, si vous voulez. Simplement, j'avais eu des bons maîtres et j'avais retenu quelques principes. Alors. Quels sont, et c'est le point 3, quelles sont les limites de la croissance chinoise? Eh bien, les limites de la croissance chinoise, elles sont exactement dans ces procédés, dans les méthodes choisies. C'est-à-dire, c'est la même chose qui fait la croissance et qui la limite. Qu'est-ce que je veux dire? Cette croissance est fondée sur l'imitation des autres. Ça veut dire que les Chinois dépendent de l'extérieur pour la définition des modèles. C'est pas eux qui ont inventé l'industrie, c'est pas eux qui ont inventé les grands produits de l'industrie. Eux, simplement, ils regardent ce que font les autres et ils font pareil. Deuxièmement, c'est une croissance qui est maintenant fondamentalement fondée sur l'exportation. Ça, c'est très bien. Mais ça veut dire aussi que vous dépendez des marchés extérieurs. Et de quels marchés extérieurs? D'abord, des marchés des pays riches. C'est-à-dire, d'un côté, les États-Unis. D'un autre côté, l'Europe. Et cela donc crée une situation où votre pays dépend de la prospérité des autres. Et que vous avez intérêt à supposer que les autres se tiennent bien et se conduisent une politique raisonnable. Les Chinois nous ont tellement admirés qu'ils ont cru que nous serions à l'éternel, éternellement disposés à acheter leurs produits parce que, éternellement, nos économies seraient prospères. Eh bien, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, puisque la croissance occidentale a diminué, que depuis peu, j'y reviendrai tout à l'heure, cette croissance est très fortement menacée. Donc, un pays, une économie, l'économie chinoise, fondée très largement sur l'exportation, cette économie est en danger à cause même de son pilier principal. Alors, ce que les économistes, moi, m'avaient appris, c'est que l'exportation, c'est très bien, mais qu'il faut aussi avoir Ce qui fait les vrais grands pays au plan économique, c'est un marché intérieur, un marché de consommation. Et pour avoir, et parce que c'est seulement avec un marché de consommation que vous pouvez avoir votre propre moteur économique, vous voyez. Seulement pour avoir un marché de consommation, il faut que les gens aient envie et la possibilité de consommer. Il faut qu'ils aient le désir et la possibilité de consommer. Pour avoir le désir de consommer, il faut avoir confiance. Et pour avoir la possibilité de consommer, il faut avoir des sous. Or, ce sont deux caractéristiques qui, dans le système chinois, manquent en large partie. Pourquoi ? Eh bien, Deng Xiaoping, c'est vrai, a installé une forme de confiance en disant « Si vous travaillez, moi j'augmente les salaires ». Mais le régime lui-même est un régime qui est un régime d'origine communiste qui s'est converti au capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que ce régime communiste était dirigé par une couche de cadres et que quand ils sont passés au capitalisme, les cadres se sont mis à faire des usines et des entreprises. C'était une couche de cadres qui avait une domination politique. C'est devenu une couche de cadres plutocratique, c'est-à-dire qui maintenant contrôle les richesses. En d'autres termes, ce pays qui avait les inconvénients du communisme a maintenant les inconvénients en plus du capitalisme déchaîné. Il y a une couche sociale qui pique tout. Et donc, en gros, pour faire un marché de consommation, il faudrait distribuer de l'argent. Et la couche qui dirige, elle laisse faire des augmentations de salaire, mais sans faire ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire augmenter décisivement le pouvoir d'achat pour que, véritablement, se crée ce moteur économique intérieur. Alors, le vrai problème maintenant de la Chine, paradoxalement, le vrai problème de la Chine, c'est que ce pays d'origine communiste ne crée pas de marché de consommation parce qu'il n'est pas assez socialiste, parce qu'il n'est pas assez social. Il y a trois domaines qui devraient être les moteurs de la consommation et où les gens ne peuvent pas consommer ou ne veulent pas consommer. Premier point, la santé. Les Chinois maintenant commencent à avoir un peu d'argent. Et ils commencent donc à chercher à vouloir durer le plus longtemps possible, ce qui, vous en serez d'accord avec moi, est humain. Hein ? Donc, ils veulent se soigner. Or, le système de santé chinois est un système hyper-capitaliste qui coûte affreusement cher et qui est totalement incompétent. Les gens sont donc contraints de garder chez eux des sommes d'argent absolument massives pour pouvoir, un, entrer à l'hôpital. Quand vous entrez à l'hôpital, il faut donner tout de suite un an de salaire. Vous imaginez, c'est pas de la blague, hein. Et ensuite, pour pouvoir vous payer un deuxième médecin, si le premier se trompe. L'homme que vous avez face à vous, moi j'ai expérimenté la médecine chinoise, parce que j'avais une douleur dans la poitrine. Alors tout de suite, on se raconte des choses. Je suis un ancien fumeur, ne fumez pas. Je suis un ancien fumeur, etc. Donc je me mets à paniquer. Ça n'a pas raté. Ils m'ont dit, monsieur, ils ont pris l'air de circonstance. Ils m'ont dit, rassurez-vous, c'était en 2004, hein, donc ça se verrait si j'avais... Voilà. « Monsieur, écoutez, c'est pas pour trop vous inquiéter, mais il y a une tâche sur la radio. Bien sûr, c'est pas certain. Mais enfin, revenez très vite pour qu'on vérifie. Soyez courageux. Vous voyez, le truc, ça se gâte, quoi. Ouais. » Alors je dis, « Docteur, c'est peut-être un cancer. Ah, évidemment, ne parlez pas comme ça. » Vous savez, donc, toute cette façon de ne pas dire tout en laissant croire que aussitôt, moi, je prends le premier avion, hein, je me paye la première classe, c'était le seul truc, j'arrive à Paris, je m'installe dans une queue, etc., je force la place, etc., pour avoir une vraie image, quoi. Et je m'en fais virer coup de pied au derrière, je n'avais rien du tout. En d'autres termes, l'hôpital voulait me faire des affaires avec moi, quoi, si vous voulez. Et ma femme, c'était partout pareil, quand elle allait pour un bobo à l'hôpital, elle en sortait avec une liste d'examens gynécologiques, grand comme ça, vous voyez, c'était vraiment... Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent leur argent de côté, voyez. Deuxièmement, quand une famille, quand un mari et une femme se marient, il y a des dépenses qui sont tragiques. Et notamment, il faut acheter un appartement. Le niveau de vie à Pékin est 10 fois moins que le niveau de vie à Paris, mais les appartements sont seulement 2 fois moins chers, en d'autres termes. Et l'immobilier, c'est de la folie en Chine. Donc, et vous avez pas assez d'une vie pour payer votre appartement. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas de logement social, voyez, qu'il n'y a pas de logement aidé. Troisièmement, l'éducation. Chez nous, on pousse des cris quand même, l'éducation, ça coûte, etc., etc. Mais globalement, hein, même si ça pèse sur le budget des familles, globalement, c'est quand même de l'ordre du relativement faisable. On peut, ça, la plupart des familles peuvent supporter. En Chine, il n'y a rien de gratuit. Ce pays d'origine communiste ne donne rien de gratuit. L'éducation était obligatoire, est obligatoire, elle n'est pas gratuite. Alors c'est en train maintenant de changer, mais ça reste très difficile. Le résultat des courses, c'est que les Chinois ont un taux d'épargne qui est dantesque. Ils ont un taux d'épargne qui est beaucoup, beaucoup trop important. Et c'est ce qui fait que leur économie, ça va être mon quatrième point, a été très frappée par la crise mondiale parce qu'elle est encore très dépendante de ses exportations. Mais avant ça, je voudrais vous donner un autre exemple de l'importance de la politique dans l'économie en vous citant quelque chose qui a été peu dit à propos du rapport entre la Chine et la crise mondiale. Vous savez ce qui s'est passé, l'origine de la crise mondiale, et dans la catastrophe du secteur immobilier aux États-Unis et notamment du crédit immobilier. Bien, les Américains ont beaucoup trop prêté d'argent et pendant longtemps ça a marché, ça a fait une bulle et beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent, puis tout d'un coup tout s'est effondré. Eh bien, la Chine étant un pays à la fois communiste et capitaliste, les gens qui dirigent les usines sont en général des cadres qui doivent rendre des comptes à l'État, sauf que tous les papiers sont complètement faux, sauf qu'ils se servent de l'argent public comme le leur. Et ça arrive même, excusez-moi, au directeur de lycée, puisque tout est faux, et que tout le monde sait que tout est faux, autant ne pas se gêner. Hein. Et c'est ainsi que les commissaires de police, c'est ainsi que les patrons d'université, c'est ainsi que les directeurs d'usine ont joué l'argent de leurs entreprises, et ils les ont investis là où ça rendait le plus. Et ils ont investi donc dans les crédits immobiliers en Californie, etc., etc. Résultat, ils ont été fauchés. Donc il n'y a pas seulement, si vous voulez, le problème des exportations et des marchés américains et européens. Il y a aussi le problème que il y a eu des investissements souterrains massifs dans les secteurs les plus fragiles de l'économie américaine. Alors, le résultat des courses est que la Chine se trouve beaucoup plus engagée dans la crise mondiale qu'on ne le croit souvent, même si elle a encore des facteurs très positifs. Alors, je voudrais un petit peu conclure là-dessus. Les fragilités sont l'exportation, donc à ne pas avoir peur, c'est eux qui ont des gros problèmes. Hein. Les fragilités sont qu'ils ont perdu pas mal de plumes sur les marchés financiers, contrairement à ce qu'on croit, qu'ils dépendent encore beaucoup de nos inventions. La raison fondamentale pour laquelle il ne faut pas avoir peur, c'est que vous avez la chance, grâce à vos professeurs, votre proviseur, mais aussi le pays dans lequel vous vivez, vous êtes dans un pays où c'est plutôt bien d'avoir des idées, vous voyez. Quand un professeur voit qu'un étudiant a une originalité, des idées, etc., il l'encourage. En tout cas, c'est son métier. Et moi, je dois tout à des professeurs extraordinaires qui m'ont soutenu. Et je suis sûr que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Et notre société est une société où l'individu est encouragé, favorisé. Moi, j'appartiens à une très grande famille, et quand je me suis mis à apprendre le chinois, tout le monde a commencé à se moquer de moi, quoi. Et le chinois, vous voyez, bon, j'avais une cinquantaine de cousins, vous imaginez un peu le concert, etc. Bien. Mais ma grand-mère, qui était une maîtresse femme, le genre Madalton, hein, ma grand-mère a fait une intervention publique et a dit le prochain qui critique Jean-Luc parce qu'il sait le chinois, il aura affaire à moi. Ensuite, j'ai eu la paix. Et ça veut dire aussi que dans notre société, si vous voulez, l'individu, les initiatives sont valorisées. En Chine, au contraire, c'est pas que les gens soient pas fortement individualistes, mais faut pas trop le montrer. Faut pas trop le montrer, et surtout pour les filles, et j'arrive vers la fin de mon exposé, mais je voudrais avancer un petit peu du côté des femmes, etc. Chez nous, l'individu est plutôt favorisé. En Chine, il y a un proverbe qui vient d'ailleurs, qui a été aussi, ou qui existe aussi au Japon, et qui dit ceci. Il ne faut pas qu'un épi de blé dépasse. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre épi plus gros, plus ou moins gros, plus ou moins petit, etc., mais il ne faut pas que ça se voit. Vous voyez ? C'est-à-dire, faites pas le différent, faites pas le malin. Et ça, c'est très mauvais pour l'invention. Pour l'invention, il faut être un bizarre. Pour être l'invention, il faut même un petit peu d'être un peu péteux, un petit peu prétentieux, etc. Vous voyez ? En Chine, alors au Japon, c'est pire encore, là, c'est comme ça. Et c'est pire encore pour la deuxième partie de l'humanité, comme disait Mao Tse-tung, hein, qui sont les femmes. Comme en Chine, comme en France, les filles réussissent très 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 bien dans toutes les épreuves écrites, disons. Et en gros, nous, à Sciences Po, on avait fait des études qui montraient qu'à l'examen d'entrée, les filles, en général, sont 5% meilleures que les garçons. Et pourtant, chez nous, à la sortie, les filles sont plutôt 5% un peu moins bonnes. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, au milieu, il s'est passé des choses, c'est que les messieurs se sont arrangés pour mettre en place des règles qui les favorisent, du genre parler fort mademoiselle, etc. Bon, en Chine, c'est beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Parce qu'une fille, si elle fait trop la maline, eh ben, elle aura des embêtements pour se marier. Et une fille qui ne se marie pas, dans le quartier, tout le monde dira, encore une, celle-là, elle serait pas un peu anormale, etc., etc. Donc le résultat, moi je donnais cours dans une université chinoise, la meilleure université chinoise, et le résultat c'est que les filles, je les trouvais brillantes. Moi je faisais des cours pour la thèse, en première année de thèse, je trouvais que c'était vraiment les plus malines. Puis ensuite elles se mettaient à plus dire un mot, j'ai rien compris, jusqu'au moment où il y en a une qui m'a dit, dis donc, moi je veux pas effrayer les gars, hein, je veux pas effrayer les types, vous voyez. Et donc, ça veut dire que le grand problème, ce pays a un grand problème avec l'invention, qui est d'ordre culturel et d'ordre social. Alors j'en viens donc aux difficultés, il y a cette difficulté-là, il y a la difficulté politique, les Chinois n'aiment pas plus que nous qu'on ne les consulte pas, hein. Nous on râle toujours, mais on râlerait beaucoup plus s'il n'y avait pas des élections. Eh bien les Chinois, ils râlent beaucoup plus. Et contrairement à ce qu'on croit, les Chinois ne sont pas plus amoureux que nous de l'ordre, etc., sont au contraire... Moi, personnellement, je suis toujours furieux des retards des avions français, et je trouve que les clients d'Air France sont bien gentils, hein. Bon, et j'arrive pas à fomenter des révoltes dans les aéroports français. En Chine, au bout d'un quart d'heure, ça y va fort, hein. Je peux vous dire que, je vais terminer par une anecdote, qui va vous montrer le problème central de la Chine. La population a été réveillée. Maintenant, elle est allée beaucoup plus loin dans la conquête de la modernité. Elle a ses chances, hein, elle a des vrais acquis, hein, mais c'est le social et c'est le politique qui font la difficulté. Alors, je me trouvais, c'était il y a une dizaine d'années, dans un bateau qui qui allait vers Shanghai. Moi, j'étais dans je le reconnais bien volontiers, dans une bonne petite cabine, là, et puis je lisais peinard, un livre important et difficile, et puis je sens une petite odeur de fumée. Je me dis, bon, tiens, bizarre. Et puis j'entends du bruit, alors je sors et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je dis, l'étranger, t'as pas remarqué ? Le bateau s'est arrêté, comme d'habitude, on n'a pas d'informations, ils se foutent de nous. C'est toujours pareil, dans l'entreprise, dans les bateaux, partout, les cadres, etc., ils nous traitent comme des chiens. Alors on a flanqué le feu au salon des quatrièmes. Bon, d'accord. Bon. Alors, je me dis, bon, c'est bizarre, ces gens-là, vraiment, je n'y ferai jamais. Bien. Je rentre, je reprends mon bouquin, et à nouveau, on sent la fumée. Alors là, je sors et je vais voir. Ah ben, l'étranger, là, il y en a marre, on s'est fait le salon des secondes. Alors je dis, écoutez, les gars, c'est pas comme ça, chez nous, vous savez, le français, là, pour faire la leçon, on est très fort. Et donc, je leur dis, chez nous, on élit des délégués et on va négocier. Vous voyez, pas ça, on va les casser la gueule au capitaine, ça sera bien plus simple, etc. Non, on élit des délégués. Et bon, vraiment, écoute, c'est bien parce que t'es sympa, tu parles chinois, alors tu seras dans nos délégués. Je dis, oui, d'accord, moi, c'est une expérience, bon, d'accord. Et on élit 5 délégués et on monte vers la passerelle. où il y avait le capitaine qui s'était complètement enfermé dans son truc, qui me criait « ils vont me faire la peau, ils vont me faire la peau ». Alors genre, je rentre, et le capitaine me dit « écoutez, c'est pas une affaire comme ça, j'ai appelé Shanghai, j'ai câblé à Shanghai, ils vont nous envoyer d'abord de l'eau, parce que l'eau commençait à manquer, bon, et puis ensuite ils vont nous remorquer ». Bien, je descends, les gens disaient « à mort le capitaine », j'ai dit « calmez-vous, là, ça arrive, etc., etc. ». Et on arrive vers Shanghai, mais c'est pas terminé. Parce qu'ensuite, on descend du bateau à Shanghai, et on a descendu du bateau, on est arrivé entre eux. Deux rangées de police armée qui nous ont tous bastonnés. Vous voyez? Senti comme ça. Quel est le résultat? Quelle est la conclusion d'une anecdote comme ça? C'est évidemment pas que la Chine est à feu et à sang, mais c'est que quand vous déclenchez des attentes, ces attentes, par définition, le désir, vos professeurs de philo vous expliqueront que le désir est quelque chose qui ne se limite pas. Les aspirations se limitent difficilement. Vous arrivez avec des résultats, vous déclenchez des espérances, et du coup, tout ce qui peut retarder la réalisation de ces espérances... Tenez, c'était là. Pardon, je me déplace. On allait, vous voyez, de cette péninsule-là à Shanghai. Voilà. Vous avez vu la péninsule, hein? Et donc, vous déclenchez des espérances qui rendent ensuite les limites insupportables, voyez. Donc, la Chine déteste ses limites, elle déteste son système. Voilà, c'est parfait. C'est là. Shandong, et c'était là aussi. Mais ça va, vous avez vu. Madame, c'est très bien, madame, ça va. Donc, voilà ce que je voulais dire, que la limite, voilà, Shandong, Shanghai. Voilà, et on était à peu près là, voyez. Donc, vous avez une société qui est très chaude, très moderne, qui a des grandes aspirations, et un régime qui, lui, est à la fois un régime assez compétent, mais qui a les limites d'un régime encore communiste et déjà capitaliste à l'extrême, c'est-à-dire de façon, en mettant le profit vraiment le plus haut. Donc, vous voyez, l'exposé que j'ai voulu vous présenter montrait deux choses. D'abord, les grands mouvements historiques sont finalement relativement simples. Hein? La Chine est descendue très bas, et ensuite, elle a donné une sorte de coup de pied, et hop, elle est remontée. Mais ce n'est pas terminé, deuxièmement. C'est-à-dire que ce n'est pas encore joué. Il ne faut pas dire qu'ils vont nous écrabouiller, ce n'est pas sûr. Vous avez reçu une éducation à la vivacité, à l'indépendance, qui vous donne un coup d'avance, hein? Qui vous donne vraiment une vraie avance. Ceux d'entre vous qui savent le chinois, s'ils pourront s'installer à Pékin, il y a maintenant une quantité de jeunes Français qui s'installent à Pékin, et qui, grâce à leurs habitudes d'originalité, etc., des petits restaurants, des magasins de photos, le coiffeur le plus recherché par ces dames à Pékin est un coiffeur français, il y a maintenant plusieurs dizaines de milliers de Français qui sont en Asie orientale et qui font un tabac, il n'y a pas d'autre mot. Vous avez, la France a encore ses chances, et vous en particulier, vous avez vos chances. Mais pour cela, il faut deux choses. D'abord, bien suivre tous vos cours, et notamment les cours de chinois, parce que il faut savoir la langue. Hein? Pour moi, ma thèse, c'est que le chinois, si on n'a pas commencé à l'apprendre avant 25 ans, c'est cuit. Hein? Mon épouse, qui avait appris le japonais à toute allure, à l'âge de 30 ans, disons, a par trois fois calé et tout oublié le peu de chinois qu'elle avait réussi à apprendre. Enfin, ensuite, quoi, à 40 ans, 50 ans et 60 ans. Donc, vraiment, suivez bien vos cours et apprenez le chinois. Mais exercez également votre sens de la perception, votre sens de la compréhension, votre sens de la réflexion. En me promenant en Chine, moi, j'ai bien vu que, en gros, le modèle chinois était à la remorque de l'Occident, que les coûts qui pesaient sur le modèle chinois augmentaient, et que donc l'économie chinoise réduirait son taux de croissance de façon inéluctable. Et j'ai ensuite compris très vite que la Chine était très frappée par la crise mondiale, elle a les chances de s'en sortir, mais c'est pas encore joué. Je vous remercie.